à tous et bienvenue sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles et bienvenue dans Histoire de savoir. Aujourd'hui, eh bien, on va parler de genre avec le projet Delta, avec vous Sarah Martin, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes chef du projet Delta dont on va parler maintenant et vous êtes chargée de projet égalité de genre à l'ULB, c'est bien ça ?
Oui, c'est bien ça.
Et donc c'est tout un programme en fait qui est mis en place par ce projet Delta. Alors je ne vais pas commencer moi à expliquer ce que c'est le projet Delta, je vous propose de l'expliquer vous-même peut-être.
Oui, donc alors le projet Delta, c'est un projet qui vise spécifiquement à lutter contre le phénomène du tuyau percé dans la carrière académique des femmes à l'université, avec un focus spécifique sur les phases doctorales et postdoctorales. Alors le tuyau percé, c'est quoi ? C'est un phénomène qu'on a identifié qui est une diminution de la proportion de femmes au fur et à mesure de l'avancement dans la carrière académique. Pour illustrer, je peux peut-être donner quelques chiffres.
Absolument.
Par exemple, donc on se rend compte qu'à l'ULB, mais c'est des chiffres qui reflètent aussi une tendance globale, on a 63% d'étudiants et étudiantes diplômés de master qui sont des femmes. Et ensuite, quand on passe au niveau de thèse défendue, on se rend compte que dans la population, c'est plus que 43% de femmes. Et cette population de femmes, elle diminue encore au niveau des postdoctorants, qui ne sont plus que 37%, pour arriver finalement tout en haut de l'échelon, qui est donc professeur ordinaire, plus qu'à 27% de femmes. Donc, tout au fur et à mesure de la carrière, on voit qu'il y a une diminution et une espèce de fuite, en fait, d'où le nom tuyau percé, de la proportion de femmes, et c'est contre ça qu'on veut lutter dans le cadre du projet Delta.
Et pourtant, on a une rectrice, ce...
Oui, mais...
C'est génial.
Oui, bien sûr, mais ça ne fait pas tout. Et donc, c'est aussi grâce à elle et à son impulsion qu'on peut mener de tels projets et qu'on a l'ambition de changer les choses.
Voilà, mais c'est une des premières femmes rectrices, d'ailleurs, je pense, non, à l'ULB ? Bon, ça, je ne sais plus, mais enfin, ça, on pourrait regarder. Mais de moins en moins de femmes, plus on monte dans la carrière académique, on va dire, moins il y a de femmes. Après, ce n'est pas hyper nouveau, en fait, ce constat. C'est un constat qui dure, en fait, depuis longtemps.
Oui, bien sûr, ce n'est pas un phénomène qui est nouveau. Et en fait, le projet Delta s'inscrit aussi dans une continuité de mesures et de projets qui sont mis en place au sein de l'ULB. Donc le petit prédécesseur du projet Delta, c'était le projet Caliper, parce qu'en plus de la ségrégation qu'on appelle ségrégation verticale que subissent les femmes en matière d'accès à leur carrière, on parle aussi de ségrégation horizontale, c'est-à-dire qu'en fonction de la discipline, en fonction de la faculté, la proportion de femmes dans les carrières académiques va être complètement différente. Il y a beaucoup moins de femmes, et ça un peu... On l'observe, chacun le sait, il y a beaucoup moins de femmes en sciences, en ingénieur, qu'il y a de femmes, en sciences dures, mais j'ai pas le bon terme, quoi.
Sciences exactes, comme on dit. Sciences
exactes, enfin, j'ai pas l'impression qu'il y a un vraiment bon terme par rapport aux sciences humaines et sociales, où là, les femmes sont beaucoup plus représentées. Et donc, il y a ces deux phénomènes qui s'articulent, et le précédent projet Caliper, lui, il s'intéressait spécifiquement à la faculté de sciences et à Polytech, en fait, et donc à travailler spécifiquement avec ces publics-là. Il y a aussi des mesures comme la mesure cascade qui a été mise en place par l'ULB. Et donc voilà, donc c'est une thématique sur laquelle le travail est entamé depuis longtemps et disons que c'en est simplement une nouvelle phase.
C'est une nouvelle phase, et tant mieux, parce que c'est vrai qu'on voit de pas énormément de femmes dans tout ce qu'on appelle les STEM, donc sciences, technologie,
oui,
le E, je ne sais plus ce que c'est.
Engineering.
Engineering, voilà, c'est parce que c'est en anglais, alors à mon avis, c'est... Et mathématiques, qu'on en retrouve plus en sciences humaines et dans tout ce qui est les fameuses disciplines du CAIR. Après, ce n'est pas facile peut-être de travailler ça justement à l'université, de pouvoir ouvrir les carrières académiques et voire même celles plus scientifiques dures aux femmes, sachant que niveau de la société, déjà, il y a un biais à ce niveau-là, que c'est toujours le classique, les garçons sont forts en maths et en sciences et les filles sont douées en français. C'est une question de société en fait.
Oui, bien sûr. Ça, en fait, c'est pas une question qui commence au pied de l'université. Et l'université fait son rôle au sein, effectivement, de rôles qui sont déjà genrés partout dans la société. Et donc, c'est voir aussi dans quelle mesure l'université peut agir sur ces thématiques-là. Et c'est ce qu'on essaye de faire à notre petite échelle.
Et qu'est-ce qui fait que les femmes, en fait, entre guillemets, disparaissent de ce tuyau ? Comment est-ce que ça se fait qu'il y a de moins en moins de femmes ? Parce qu'il y a même au niveau de la proportion, au niveau du bachelier, il y a plus de filles que de garçons. Ça s'amenuise petit à petit. Est-ce qu'on a une raison? Est-ce qu'on a trouvé les raisons structurelles?
Oui. Alors, on n'a pas la prétention d'avoir une liste exhaustive, mais par contre, on a pu identifier des facteurs qui clairement vont jouer sur le fait que les femmes décrochent au fur et à mesure de cette carrière académique. Alors, il y en a plusieurs, surtout au niveau... Donc là, je vais citer ceux qui nous intéressent plutôt au niveau doctoral et postdoctoral. Il y en a d'autres, évidemment, à d'autres stades de la carrière. Mais typiquement, le premier qu'on cite, c'est la difficulté de concilier vie professionnelle et vie familiale. En fait, les étapes de thèse et de postdoctorat sont des étapes qui se jouent, qui concordent avec l'âge auquel les personnes commencent à songer à fonder une famille, et c'est difficilement conciliable avec une vie professionnelle dans laquelle on attend énormément de dévouement, finalement. En particulier pour les femmes, parce que malheureusement, encore une fois, on s'inscrit aussi dans un contexte sociétal, et encore aujourd'hui, on en attend plus des femmes dans... le travail non rémunéré, donc le travail de soins des enfants, d'entretien du foyer, etc. Donc ça, c'est une première problématique. Comment concilier vie familiale et de manière plus générale, vie personnelle en fait, et vie professionnelle. Une deuxième question qu'on s'est posée, c'est la question du travail universitaire invisible. Donc c'est-à-dire que au sein d'une équipe de recherche, il y a évidemment du travail purement de recherche, donc recherche de terrain, publication d'articles, expérimentation, etc. Et il y a du travail qu'on va qualifier d'invisible, parce que c'est du travail qui est nécessaire pour qu'une équipe tourne bien, pour que le laboratoire fonctionne, pour que
tout fonctionne,
tous les rouages soient bien huilés, finalement. Mais par contre, invisible, parce qu'il n'est valorisé d'aucune manière, malgré le fait qu'il soit chronophage. Donc ça va être des responsabilités logistiques, d'organisation, de soutien émotionnel, plein de choses de cet ordre-là, qui vont être assez chronophages, et en fait qui, d'après les premières études, parce que c'est un concept assez nouveau...
Ouais, j'avais jamais entendu.
Sont effectués de manière disproportionnée par les femmes.
Ok. Et c'est de nouveau du prendre soin, quasi. Enfin,
oui, c'est ça, c'est très lié à la notion de care que les féministes ont déjà explorée, mais particulièrement dans le travail universitaire.
C'est dingue, ça. Oui. Donc c'est, je ne vais pas dire que c'est le nettoyage du labo, mais...
Ça en fait partie, en fait.
Donc ça, c'était le deuxième axe.
Voilà. J'en ai encore deux autres qu'on a identifiés. C'est les potentiels biais de genre dans les critères de sélection. Donc quand on va recruter quelqu'un, que ce soit au niveau scientifique ou académique, est-ce qu'il n'y a pas des biais de genre dans la manière dont les critères ont été définis, ou alors dans la manière dont les personnes sont évaluées? Ça, c'est aussi quelque chose qu'on essaye d'explorer pour essayer d'y remédier. Et le dernier volet, c'est tout ce qui concerne le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles. Qui malheureusement non plus ne s'arrête pas aux portes de l'université, et qui concerne aussi la communauté non seulement étudiante mais aussi scientifique et académique. Il y a une étude qui date de 2024 qui dit que 36,5% des répondants et répondantes ont été victimes de harcèlement dans le cadre de l'enseignement supérieur francophone. Donc c'est pas rien. Et on sait que ces personnes-là qui sont victimes de ce type de comportement, voire d'agression, ont plus tendance à décrocher de leur carrière, ont plus de difficultés à poursuivre une carrière. Et donc ça, c'est aussi clairement un axe de travail qu'on veut aborder.
Donc ça, ce sont les fameux axes de travail qui vont vous permettre de travailler sur cette promotion finalement de l'égalité de genre dans les carrières académiques. Alors comment ça se passe ?
Oui, donc en fait, on est là ici, on travaille sur 3 ans. Donc on a quand même une période de temps assez large pour pouvoir quand même explorer des solutions sur le long terme. Donc dans la plupart des axes que je vous ai décrits ici, il y a d'abord une phase de diagnostic simplement pour voir où on en est au sein de l'ULB.
Et comment ça se passe alors, cette évaluation diagnostique? On pose des questions, c'est une phase, c'est des interviews, une enquête, je ne sais pas.
Oui, alors ça dépend un peu des axes, parce qu'il y a des axes sur lesquels on a plus de données que d'autres qui sont déjà disponibles. On va passer d'abord par une revue de la littérature. Selon le travail, on va passer par des enquêtes, des entretiens. On a aussi des interlocuteurs et interlocutrices privilégiés. Enfin, on n'est pas les seuls détenteurs et détentrices de savoir sur ces questions-là. Il y a des acteurs et actrices qui sont très pertinents sur ces questions. et qu'on sollicite en fait notamment la délégation du corps scientifique qui a en fait toutes ces connaissances-là, et donc on travaille étroitement avec avec plein de personnes qui sont là pour nous épauler dans la manière de faire des diagnostics de manière efficace et pertinente.
C'est presque interdisciplinaire, on peut dire.
Oui, bien sûr.
Absolument.
On essaye vraiment en fait de collaborer et pas que ce soit un truc qui soit déconnecté, plutôt quelque chose de construit avec.
Ok. Et donc ça, c'est la première phase, donc c'est plus du diagnostic. Ensuite, en fait, vous êtes au début du... C'est le début du projet, en
oui,
fait.
Oui, il a démarré.
Là, c'est, mais en fait, c'est un projet, c'est une étude. Où est-ce qu'il va y avoir aussi, à un moment, un plan d'action concret qui va être mis en place
Notre objectif, c'est clairement de mettre en place des mesures. Et on vise plutôt, dans la manière dont a été défini le projet Delta, l'objectif, c'était vraiment de mettre en place des mesures pérennes et en opposition avec des actions plutôt one shot entre guillemets pour avoir un impact plus durable. Donc forcément on aura des actions qui vont être plus centrées sur de la communication et de la sensibilisation, mais pour nous ça c'est pas le cœur du projet. Le cœur du projet, c'est de pouvoir mettre en place des mesures qui vont instaurer des changements durables, mais forcément ça vient après une phase de voilà, qu'est-ce qui se passe vraiment, de quelle manière c'est intéressant, possible et pertinent d'agir pour ensuite pouvoir mettre en place les choses les plus appropriées finalement.
Et alors ça va marcher dans toutes les... Parce qu'on parlait beaucoup des STEM tout à l'heure, mm-hmm. mais finalement ça va être dans toutes les facultés. Enfin, c'est vraiment au niveau de l'université que ça se passe.
Oui, c'est ça.
Avez-vous vu un homme tout nu sortir soudain de la salle de bain, déjà chauve et un peu ventru et la moustache pleine de chagrin? Avez-vous vu un homme bien laid en train de manger des spaghettis, fourchette au coin, l'air abruti, de la sauce tomate sur son gilet? Quand ils sont beaux, ils sont idiots. Quand ils sont vieux, ils sont affreux. Quand ils sont grands, ils sont feignants. Quand ils sont petits, ils sont méchants. Ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Faites plutôt du cinéma, restez pucelle chez votre papa. Élevez des singes, élevez des chats, soyez radeuses, avenue du Bois. Mais ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Avez-vous vu un homme gêné rentrer trop tard pour le dîner, du rouge à lèvres sur le col, du flageolant dans la guibole? Avez-vous vu au cabaret un monsieur qui n'est plus très frais se pencher avec insistance sur une petite fleur d'innocence? Quand ils sont bêtes, ils vous embêtent. Quand ils sont forts, ils font du sport. Quand ils sont riches, ils gardent l'artiche. Quand ils sont durs, ils vous torturent. Ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Mettez vos robes de gala, allez danser à l'Olympia, changez d'amant 4 fois par mois. Ah, la belle vie que ce sera si vous ne vous mariez pas, les filles, si vous ne vous mariez pas.
Et alors, j'ai oublié tantôt, parce qu'on a parlé de tuyaux percés, et moi je me souviens qu'on parlait avant de plafond de verre.
Alors, ça existe toujours.
Ah ben, il existe toujours, le plafond de verre.
Oui, il existe toujours. Il n'a pas miraculeusement disparu.
Non, mais bah, entre le tuyau percé, on a l'impression qu'on va descendre et le plafond de verre, on n'arrive plus à monter. Enfin, c'était un peu... Voilà. Mais il y a une différence entre les deux ou finalement, c'est une autre façon de parler du moment où les femmes disparaissent de certains postes, en fait?
Alors, à mon sens, il y a quand même une petite différence dans le sens où, quand on parle de phénomène de tuyau percé, c'est qu'à chaque étape évolution de carrière, on constate progressivement une diminution du nombre de femmes. Tandis que pour moi, le concept de plafond de verre, il parle vraiment des top niveaux de hiérarchie et vraiment d'un obstacle structurel ou de quelque nature qu'il soit finalement, qui empêche les femmes d'arriver au dernier niveau de hiérarchie. Et c'est plutôt ça le plafond de verre, qu'elles sont bloquées à un certain niveau et qu'au-delà de celui-là, il n'y en a plus. Tandis que le tuyau percé, c'est vraiment voilà, un décrochage progressif.
C'est vraiment, c'est plus progressif. Et l'idée qu'en fait, il y en a quand même, mais moins.
Oui, c'est ça. Mais les deux ne sont pas malheureusement séparables non plus. Donc l'un n'empêche pas l'autre.
Mais voilà, mais en même temps, donc il y a une certaine différence. Et peut-être qu'un tuyau percé, c'est peut-être plus représentatif de ce qui se passe dans une université, dans une institution académique, que plafond de verre, c'est peut-être plus dans l'entreprise ou...
Peut-être, mais je ne suis pas experte là-dessus, donc je ne vais pas m'avancer.
Et donc ce projet Delta, vous avez dit, hein, donc on est dans une première phase un peu d'étude. Ça va, c'est un projet qui est entre 2025 et 2028. Cette première phase va entraîner la suite. Ça se passe un peu comment? Est-ce que vous avez imaginé le temps de ces 3 ans?
Simplement, en fait, le projet Delta, il est divisé en 10... Enfin, donc là, je vous ai présenté les 4 axes, mais en réalité, il y a 10 mesures ou 10 actions qu'on veut mettre en œuvre. Et donc, ces actions, elles sont étalées au fur et à mesure des 3 ans en fonction de, voilà, quels diagnostics ont déjà été faits, etc. Donc, il y a un étalement simplement pour que je ne sois pas débordée tout d'un coup. Donc, il y a des actions qu'on n'a pas encore du tout démarrées et d'autres qui sont déjà plus avancées. Voilà. Et donc, à l'issue des 3 ans, l'idée, c'est d'avoir des mesures concrètes à présenter et qui soient mises en place. Oui.
Et aujourd'hui, vous en êtes où?
Alors, aujourd'hui, on a commencé le travail sur les 4 axes. Donc, l'idée, c'était quand même d'avoir déjà au minimum une action sur les 4 axes. Mais moi, je suis encore en train d'explorer... Enfin, vraiment dans une phase de diagnostic où on explore, on construit des questionnaires... On réfléchit à comment mettre en place une formation. Voilà, c'est une première phase. Le projet est en marche et il n'y a pas de frein observé à ce stade-là, mais on démarre tranquillement.
Est-ce qu'il y a déjà d'autres universités qui ont mis en place un système peut-être pas tout à fait équivalent, mais qui travaillent aussi? Est-ce que c'est commun aux universités de se rendre compte que finalement le principe du tuyau percé...
Alors oui, bien sûr.
Non, j'imagine que c'est pas que à l'ULB.
Non. Alors, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international, la plupart des universités, elles ont, alors ça s'appelle pas toujours pareil, mais une équipe qui est dédiée aux questions de genre et de diversité, qui va travailler et mettre en place des mesures spécifiques de la même manière que nous. Alors c'est pour ça aussi que dans toute cette phase de diagnostic dont je vous ai parlé, nous on va aussi aller chercher les bonnes pratiques des autres universités. On est de manière privilégiée en contact avec certaines universités parce que, en fait, dans le cadre du financement de ce projet, ça vient d'un appel à projet auquel d'autres universités ont aussi répondu. Et donc, dans ce cadre-là, on peut avoir des échanges un peu approfondis et privilégiés. Mais il est aussi prévu d'avoir des contacts avec d'autres universités pour pouvoir explorer plus en détail les mesures qu'elles ont déjà mises en place. Et leurs impacts pour comprendre dans quelle mesure c'est efficace et c'est réplicable dans nos situations.
Il y a déjà des mesures qui ont été mises en place à l'ULB ?
Oui, bien sûr, on parlait tout à l'heure de la mesure cascade, par exemple, qui est un peu la mesure phare, mais il y a plein de mesures. Donc nous, ici, au niveau de la cellule genre et diversité, on travaille non seulement sur les questions de carrière académique, mais aussi sur le corps étudiant, et le PATGS, donc le personnel administratif. Et donc, pour toutes ces personnes-là, il y a des mesures qui sont mises en place et il y a une réflexion qui est continue pour améliorer l'égalité de genre à tous les niveaux.
Et donc, d'un certain côté, en fait, le projet Delta tente en fait de aussi sortir des biais de genre. Et d'abord, ça on ne l'a peut-être pas dit non plus, mais c'est quoi un biais de genre?
Alors, un biais de genre, c'est le fait de manière... consciente ou inconsciente, avoir des préjugés, des stéréotypes sur un groupe de personnes. En l'occurrence, si c'est un biais de genre, ça va être sur, par exemple, les femmes. Alors, j'ai pas envie de donner d'exemple du tout, mais c'est des présupposés qu'on va avoir et qui vont faire en sorte que les femmes vont être moins privilégiées dans certains types de postes ou au contraire, qu'on va attendre d'elles qu'elles effectuent certains types de tâches. Typiquement, les tâches de soins, les tâches de care vont être plus souvent attribuées aux femmes parce que, je cite, elles savent mieux faire ça ou...
Parce qu'elles ont l'instinct maternel.
C'est ça. voilà, donc ça, typiquement, l'instinct maternel, ça va être un biais de genre.
Et donc, c'est des choses qu'on retrouve à l'université aussi. En fait, c'est comme on le disait un peu plus tôt, c'est qu'en fait, c'est ancré aussi quelque part dans une société. À côté des biais de genre, donc le projet Delta va tenter en fait de contrecarrer, mais à côté de ça, il y a d'autres biais aussi qui entrent en jeu. Alors, est-ce qu'ils sont liés, est-ce qu'ils ne sont pas liés, mais parfois, ils peuvent en fait s'additionner et créer des biais.
Oui. Effectivement, l'approche qu'on essaye d'avoir dans le cadre du projet Delta, c'est de ne pas se concentrer uniquement sur le genre pour éviter de créer d'autres facteurs de discrimination ou d'inégalité. Donc, dans la manière dont on va faire notre diagnostic et dans la manière dont on va élaborer nos mesures, on va réfléchir à intégrer aussi d'autres potentiels biais ou discriminations. Par exemple, que ce soit sur l'origine, qu'elle soit réelle ou perçue, que ce soit sur l'appartenance à la communauté LGBT, un handicap qui soit visible ou non, etc. Enfin, il y a 19 critères critères protégés dans la loi belge, je ne vais pas tous les citer ici. Mais vraiment, l'idée, c'est d'avoir aussi cette approche et cette vision-là, de pouvoir solliciter des personnes expertes à des moments clés, parce qu'on ne prétend pas avoir la science infuse sur toutes ces questions-là, mais clairement, on est conscient de ces biais, on sait qu'ils existent, et donc l'idée, c'est de ne pas passer à côté et de construire des mesures pour toutes et tous.
Ce qui revient à dire, c'est que c'est comme vous me disiez, en fait, d'avoir plutôt une vision intersectionnelle.
Oui, c'est ça.
Du projet. Alors, il y a quelque chose, c'est que c'est, je reviens avec ça, mais c'est parce que ça me travaille énormément, c'est que c'est le problème des mentalités, en fait. Comment est-ce qu'on parvient à faire changer finalement des mentalités qui sont acquises finalement depuis énormément de temps, parfois des siècles, je vais pas dire des millénaires quand même, pas à ce point-là, mais depuis des siècles. Et donc, est-ce que vous pensez, et là c'est peut-être plus une question peut-être personnelle, je ne sais pas, qu'un système de quotas en fait pourrait amener à une certaine parité, une certaine égalité ou pas?
Et je peux répondre de manière plus large peut-être,
ouais,
que simplement la question des quotas, parce que en fait je pense que la manière dont les gens perçoivent les femmes et lutter contre les inégalités, eh ben on y remédie de plusieurs manières. Il y a des mesures forcément qui sont structurelles, alors ça peut passer par des quotas ou pas. En fait, c'est ce qu'on appelle des actions de discrimination positive qui vont favoriser des groupes qui sont discriminés. Il y a aussi des actions de représentation, de sensibilisation, d'éducation, de communication. Et en fait, je pense que c'est tout un package à la fois de mesures structurelles et concrètes qui font que sur le terrain, les choses changent, mais qui doivent être aussi accompagnées par des mesures de sensibilisation. Et donc, c'est tout un travail à tous les niveaux pour arriver à quelque chose de mieux finalement.
Voilà. Il y avait aussi, il y a eu une campagne, mais je ne sais pas si elle est toujours d'actualité, Yes She Can, et c'était des étudiantes en justement tout ce qui était... Enfin, tout ce qui était en faculté scientifique, maths et tout ça, et qui incitait les autres filles à dire « Allez, venez, il faut agir là-dedans. » Et comment est-ce que vous imaginez, en fait, la suite à votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour essayer d'arriver à cette égalité, par exemple, au niveau des doctorats
Clairement, en fait, ça revient un peu à rediscuter des axes finalement dont on a déjà discuté. Mais en fait, je pense que vraiment, d'une part, il y a aussi la sociabilisation qu'on a en tant que femme pour beaucoup fait en sorte qu'on se met aussi des limites. Dans le sens qu'on va avoir tendance à se sentir moins capable et moins compétente. Alors, on va clairement nous faire le ressentir, c'est quelque chose qu'on a intériorisé, on n'est pas juste comme ça.
Ah oui,
mais donc ça va aussi jouer beaucoup sur nos capacités à aller postuler à des jobs et aller faire des... se dire qu'on est capable de se lancer dans une carrière de la sorte. Et donc je pense que ça fait aussi partie du fait de rendre ces carrières plus accessibles. Effectivement, ce genre d'initiative comme Yes She Can, oui. Et il faut dire aux autres qu'elles sont capables, quoi.
Ouais. Alors, je voyais aussi que, par exemple, pour des séjours de recherche, de je ne sais pas comment on appelle
mobilité.
Ça. Oui, c'est ça. Qu'il y avait, par exemple, on pourrait aussi permettre aux femmes d'avoir plus de facilité pour soit de partir avec un enfant ou le faire garder. Ça fait partie... Parce que, finalement, là, on reste dans l'idée de la femme qui s'occupe des enfants, mais en même temps, on fait face à une réalité qui existe, en fait.
Oui, c'est ça. En fait, il faut aussi partir du principe que malheureusement, on ne va pas résoudre tout du jour au lendemain et que donc, il y a aussi des mesures en fait, d'accompagnement qui permettent et qui vont permettre aux femmes aussi, par exemple, de mieux concilier les deux entre Typiquement, s'il y a nécessité d'aller faire de la recherche sur le terrain, alors si elles sont le parent principal de leur enfant et qu'elles ont besoin de l'emmener avec, et ben, en fait, faire en sorte de faciliter ça. Et donc, c'est aussi une réflexion qu'on a de « bon, bah voilà, on ne va pas changer le système du tout au tout du jour au lendemain. Comment est-ce qu'on peut travailler dans ce système au fur et à mesure ?» pour faire en sorte que ce soit plus accessible. Et à noter que cette mesure-là, elle ne serait pas forcément que accessible aux femmes, elle serait aussi accessible aux hommes qui seraient le parent principal de leur enfant et qui auraient besoin, en fait, de ce même type de mesure et de ce même type d'accompagnement. Simplement, voilà, dans les faits, on sait que c'est majoritairement des femmes.
Majoritairement. Et donc, ça rejoint donc, le premier axe de travail, donc équilibre travail-famille. Ça, c'est un exemple concret de cet axe-là. Après, il y a un côté très, très enthousiasmant à tout ça. C'est que quand même, à l'ULB, il n'y avait pas de femmes avant du tout. Et que c'est quand même la première université qui a vu les premières étudiantes, la première femme assistante, la première femme professeure, la première femme accédant au décanat ainsi qu'au rectorat, la première cité pour les étudiants, la première crèche universitaire, le premier planning familial. On se dit que c'est bon, là. On va être les premiers qui auront l'égalité au niveau... Enfin, voilà, ça veut dire que ça s'inscrit dans une tradition, quelque part, universitaire, et où l'université a l'air d'être quand même au taquet par rapport à ça.
Oui, effectivement, c'est vrai qu'on sent une vraie volonté institutionnelle de vouloir, et de longue date, de vouloir être précurseur sur ces sujets et pionnière vraiment sur l'accès aux études pour les femmes et enfin tout ce que vous venez de citer. Et donc, oui, tous les projets qu'on peut mener aujourd'hui, ils s'inscrivent aussi dans cette continuité-là.
Et voilà, donc ça s'appelle le projet Delta. Donc ça a commencé il n'y a pas longtemps en fait, hein, puisque c'est un projet qui va s'étendre de 2025 à 2028. Est-ce que vous êtes d'accord de revenir en 2028 pour nous dire où ça en est ?
On peut.
On peut. Et il y a une idée d'une prolongation ou de... Enfin, on espère qu'il n'y ait pas de prolongation, qu'il y ait une mise en route de mesures concrètes, ou est-ce que c'est quelque chose aussi qui va être revu tous les 3 ans et peut-être prolongé ?
À ce stade, c'est difficile de dire évidemment ce que ce sera la suite, mais en tout cas, je pense que la volonté, ce sera de continuer à progresser et peut-être investiguer de nouvelles thématiques ou de nouvelles problématiques en fonction de ce que le projet Delta aura pu dégager comme constat et, entre guillemets, résoudre comme problème ou commencer à résoudre comme problème.
Eh bien voilà, donc on se tiendra en tout cas au courant au niveau de Radio Campus dans Histoire de Savoir et on vous réinvitera donc dans 3 ans. Alors, ça fait peut-être un peu bref parce que ce sera tip-top la fin, mais voilà, ou à la publication des résultats. Et en tout cas, j'étais ravie de vous recevoir dans cette émission et de pouvoir parler de ce projet. Alors, Sarah Martin, à dans 3 ans.
J'allais dire à bientôt.
Mais... À bientôt. C'est toujours à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci.
Ah, mais maintenant, pauvres pécheurs, le fruit de vos entrailles est béni. Et à l'heure de notre mort, Jésus est avec le Seigneur. Et vous, Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, vous êtes bénie. Priez pour nous entre toutes les femmes pleines de grâce. Priez pour nous entre toutes les femmes pleines de grâce. Priez pour nous entre toutes les femmes pleines de grâce. Je vous salue.
Un contre-temps, je me contrefous des idées convenues. Dans mes Disney, y a des héros trans, des bouines et des bébés. Chassez-moi, pêchez-moi, pendez-moi, guillotinez-moi, écaillez-moi, videz-moi, éradiquez-moi, abolissez-moi, comparez-moi. Combien de fois dois-je vous dire que mon sang est rouge?
D'où vient cette haine? Je veux juste lire entre les lignes de vos mains. On m'a dit je t'aime, je ne veux pas finir comme la maman ou la pute.
quand j'ai pas chanté mon dernier mot. Obéir aux lois, comptez pas sur moi, j'ai pas peur, faites-moi la peau.
Voilà pourquoi les sirènes hurlent le premier mercredi de chaque mois.